Alors, je vais commencer par une mise au point et une confession. Une mise au point. On vous a menti, enfin, j'ai menti. Ça commence par la confession. Plus exactement, il y a erreur sur le marchandise, ça ne sera pas une conférence. Parce que je ne suis pas un conférencier, trop fantaisiste pour ça, pas assez doué pour mettre en état des notes, c'est en vrac. Ceux d'entre vous qui me connaissent le savent, ceux qui me connaissent moins vont le découvrir très vite. Ça ne sera pas une conférence, tout au plus un témoignage. Un témoignage personnel d'une période vécue auprès de Mgr Brincard pendant de longues années, au cours desquelles cette notion du camino nous a beaucoup rassemblés. Voilà pour la mise au point. Quant à la confession, eh bien, j'ai péché par présomption. Quand Mgr Baumgarten m'a appelé, en me parlant de cette magnifique idée du colloque, il m'a demandé « Est-ce que vous accepteriez d'intervenir ?» Par affection pour celui qui nous rassemble aujourd'hui, j'ai répondu « Oui ». Puis quand j'ai vu la liste des vrais intervenants sur le document d'invitation, j'ai mesuré la gravité de ma faute de présomption. Et alors quand je vois le public qui me fait face, et que j'y reconnais une multitude de visages qui ont connu Henri Brincard bien plus que moi, qui l'ont pratiqué bien plus longtemps, qui auraient mille autres choses plus intéressantes que les miennes à dire, je suis rouge de confusion. Tant pis pour vous. Fuen prolegomen, allons-y. Le camino, chemin de terre, chemin de foi. Pour nous mettre dans l'ambiance, je vous propose une prière. Ce n'était pas inscrit au programme, mais dans ce lieu, ça ne devrait choquer que peu de monde. Ça s'intitule « La bénédiction du départ ». C'est celle qui est prononcée tous les matins, entre avril et octobre, au départ des pèlerins. Vous y retrouverez la main de celui qui nous rassemble. Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable à tes serviteurs qui poursuivent leur pèlerinage et dirigent leur chemin selon ta volonté. Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans l'obscurité de la nuit, un soulagement, afin que ils arrivent heureusement par ta grâce au terme de leur chemin. Voilà comment sont accueillis les pèlerins, les partants, dirons-nous, ceux qui le matin viennent à la cathédrale du Puy. Chaque fois, au moment de la bénédiction, ils sont envoyés en mission sur ce thème-là. Le texte est du Père Brincard. Une manière de se mettre dans ses pas sur ce chemin que nous allons essayer de parcourir rapidement. Camino. Quand on prononce le mot camino au Puy-en-Velay, on fait révérence à Mgr Henri Brincard. Parce qu'il a beaucoup, comme vous l'avez souligné, Mgr, il a beaucoup œuvré pour donner à ce chemin qu'il connaissait déjà, même avant son arrivée, mais depuis son arrivée, une nette progression. Il a beaucoup œuvré pour lui donner une âme, pour lui donner le sens d'une spiritualité du marcheur. Et quand on dit camino, effectivement, on évoque à la fois le lieu et le chemin. Chemin millénaire et lieu récent, vieux de 12 ans seulement, où finalement se découvre le chemin quand on vient au Puy-en-Velay. Pour nous mettre dans l'ambiance de ce que Mgr Brincard souhaitait en faire, je vous lis un texte qu'il a écrit après avoir déjà bien travaillé sur le sujet. On y reviendra tout à l'heure. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, et je vois des sourires sur certains visages qui confirment mes propos. Il a fallu beaucoup d'opiniâtreté pour arriver au bout. Quel était son propos ? En voyant croître d'année en année le nombre de ceux qui prennent le départ, j'ai acquis la conviction que le pèlerinage de Saint-Jacques joue un rôle essentiel dans le renouvellement d'une espérance apportant avec elle confiance et expérience de vie. Afin de mieux accueillir pèlerins et touristes à la recherche d'un message élargissant les horizons du quotidien, j'ai eu l'intuition d'un lieu appelé Camino. Situé près du sanctuaire de Notre-Dame du Puy, ce lieu aura pour vocation d'accueillir tous ceux qui aspirent à parcourir d'un pas alerte le chemin conduisant à l'épanouissement du cœur. Tout est dit du projet. Nous allons, si vous voulez bien, pendant ce petit moment ensemble, partir du lieu pour aller vers le chemin. Le Camino, tel qu'il l'a voulu, tel qu'il est aujourd'hui, c'est un espace scénographique d'accueil et d'interprétation installé dans l'hôtel Saint-Vidal depuis 2012. À destination de celles et ceux qui se préparent à partir, de celles et ceux qui y pensent pour plus tard, de celles et ceux qui ne partiront peut-être jamais, mais qui ont envie de comprendre pourquoi tant d'hommes et tant de femmes empruntent ce chemin de terre qui va toujours vers le soleil couchant, toujours vers l'ouest, chemin de terre, chemin de foi pour des pèlerins. Finalement, qu'est-ce qui attire tous ces hommes et toutes ces femmes sur ce chemin ? L'espace Camino, pour qui ? Pourquoi ? Voilà la question que se posait sans doute Henri Brincard lorsqu'il a... Monseigneur Henri Brincard, pardon, mon père. Quand il a envisagé ce lieu. En posant la question, j'allais dire, il se pose en fidèle continuateur de l'œuvre de son lointain prédécesseur Gottescalque. 1070 ans d'écart entre les deux. Et pourtant, des tas de points communs. De ce que je sais du premier, que j'ai moins bien connu que le second, voyez-vous. 1070 ans, c'est loin. Tous deux animés par une piété mariale que leur reconnaissaient leurs contemporains. N'oublions pas que Gottescalque est parti vers Saint-Jacques-de-Compostelle pour aller se recueillir sur le tombeau de l'apôtre, mais également pour aller chercher un document très important dans le culte marial, intitulé « De Virginitate Virgo Maria ». Alors si on le... Tant pis pour les latinistes qui, eux, liraient « De Virginitate Sanctae Mariae ». L'honneur est sauf. Henri Brincard portait cette même dimension de spiritualité mariale. Sœur Marie-Pia l'évoquera, le père Marc vient de l'évoquer également. Tout ce qu'il a fait pour donner du souffle au pèlerinage Notre-Dame du Puy l'a conduit à regarder aussi vers d'autres terres. Et c'est là où il rejoint Gottescalque. Un projet qu'il faut mettre sur pied. Pour Gottescalque, c'est un aller-retour en 950, enfin, automne 950, printemps 951, un aller-retour jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour Mgr Brincard, le projet, il est moins dans les kilomètres que dans la réalisation d'un espace tel qu'il l'a voulu, tel qu'il l'a imaginé, pour permettre aux pèlerins, aux touristes, aux marcheurs, à ceux qui vont partir, de comprendre. Alors il s'engage dans une aventure que nous sommes un certain nombre dans cette salle à avoir partagée avec lui. J'y reviendrai. Pourquoi aventure ? Parce que l'idée est séduisante. Il faut faire quelque chose pour eux. Mais dans quel esprit ? Alors l'idée de cet espace, c'est très clair dans son esprit, ça ne sera pas un musée au sens collection d'objets. Non, ça ne sera pas un musée collection d'objets. On n'y verra pas le premier soulier de Saint-Jacques, on n'y verra pas la crosse bien conservée de Gotteskalk, ça n'est pas une collection d'objets. C'est un lieu qui doit inspirer et non pas montrer. Et il nous invite, les quelques-uns qui commençons à tourner autour du sujet avec lui, il nous invite à aller voir le musée de la Correrie à la Grande Chartreuse, où on ne montre rien et où on suggère tout. Quand on revient, on se retrouve entre nous et autour de lui en lui disant, on a compris, enfin, modestement, un peu mieux compris, votre souhait, votre projet. Reste maintenant à le concrétiser. Mais tous ceux dans cette salle qui ont bien connu Mgr Brincard, et vous êtes très nombreux, savent bien que lorsqu'il a une idée en tête, il l'amène jusqu'au bout. Qu'il s'agisse de la restauration de la cathédrale dont on nous parlera demain, ou les impedimenta, c'est comme ça que disent les latinistes, n'ont pas manqué. Enfin, les ennuis, quoi, en bon français. Hein, ou qu'il s'agisse de ce projet du Camino. Alors, il va constituer une équipe. Première chose, constituer une équipe. Et il va chercher, d'abord, des amis fidèles à lui, autour de Joseph Musso, Hugues Pialou et quelques autres. Ce sont des amitiés anciennes. Pour certains, ce sont même des camarades d'études, sur lesquels il sait qu'il peut compter, et qui vont lui permettre de rechercher le nerf de la guerre, le financement. Parce qu'il est bien clair dans sa tête, dès le premier jour, qu'en aucun cas, le diocèse ne doit être mis à contribution pour financer le projet. C'est clair. Il faut donc trouver des subsides. On voit bien... On ne sait pas encore où on va s'installer. On ne sait pas du tout ce qu'on fera, mais on sait déjà que ça coûtera cher. C'est déjà un bon début. Ça nous vaut d'ailleurs quelques réunions à Paris, y compris à l'hôtel des Invalides, où le général Gobiliard, père de Mgr Emmanuel Gobiliard, nous reçoit volontiers et même nous héberge. J'ai eu le privilège de dormir quelques fois aux Invalides. Prémonitoire, je ne sais pas. Je n'ose pas y croire. En tout cas, les réunions se multiplient. On essaie de faire adhérer un certain nombre de personnages capables d'apporter quelques subsides. Et l'idée prend corps. Lentement, sagement, mais elle prend corps. À cette équipe, j'allais dire, d'amis fidèles de toujours, parisiennes, s'ajoute une équipe locale, où on retrouve au premier rang le père Emmanuel Gobiliard. On reviendra sur son rôle dans cette opération Camino, le lieu. Son rôle a été déterminant à plusieurs égards. On y trouve Gilles Bayon de la Tour, qui est là, et quelques autres. Il faut trouver maintenant un local, il faut trouver un lieu, c'est la première étape. Alors, évidemment, le lieu, ben, il est tout trouvé. C'est la visitation. La visitation, Jean-Paul, la visitation, elle appartient au département. Oui, Monseigneur. Vous avez été le directeur de cabinet de Jacques Barrault. Vous avez gardé des liens très proches avec lui. Voyons-nous tous les trois. Ainsi fut fait. Peut-être ai-je mis à un moment donné un petit doute en disant « Est-ce que c'est la bonne solution ? Faut-il le faire ?» Et il m'a regardé avec ce regard profond, ses yeux très bleus plantés dans les vôtres, où il dit « Vous croyez ?» Et là, vous ne croyez plus rien. Vous cédez. Eh oui. Donc, ainsi fut fait. rencontre et le diocèse rachète la visitation au département qu'il avait lui-même acquis de l'ordre de la visitation au moment du départ des visitandines. Le département n'y fait pas de bénéfice, n'y perd pas d'argent parce que la loi ne le permet pas. C'est un, selon l'expression de notre évêque, c'est un retour en église. Problème. Comment y installer le projet ? Projet dont on ne sait pas combien il tiendra de salles, dont on ne voit pas précisément comment on pourra le développer, mais dont on sait exactement ce qu'on veut faire. Eh bien là, je peux vous dire, et je parle sous le contrôle d'Orfèvre en la matière, n'est-ce pas Hugues ? Toutes les solutions ont été envisagées. Tous les obstacles se sont dressés à chacune des solutions, y compris le surcoût financier. On a beau croire à la Providence, y croire fermement, et croire aussi à ceux qui la servent en donnant pour racheter, n'est-ce pas ? Il y a des limites. Et au bout de quelques temps, le projet Visitation piétine. Et nous sommes un certain nombre à penser que peut-être, nous n'irons pas plus loin. Mal connaître Monseigneur Brincard. D'autant plus qu'entre-temps, je vous dirai pourquoi je suis rentré dans la boucle de cette affaire, parce que c'est quand même pas très courant pour un directeur diocésain récemment nommé de se trouver embarqué dans un projet à caractère immobilier qui est bien loin de sa fonction, qui ajoute une charge supplémentaire à une mission qui n'en manque pas. Voilà que, à ce moment-là de l'histoire, le père Emmanuel Gobiliard explique qu'il a fait une visite tout à fait imprévue, mais instructive, dans cet hôtel de Saint-Vidal, dont on connaît la partie émergée, mais bon, beaucoup moins la partie souterraine, et qu'il a découvert là un lieu qui, 3 points de suspension, et pas de suspension pour longtemps. Effectivement, cette fois-ci, le lieu est trouvé. Et comme le lieu se compose, et vous le connaissez, si ce n'est pas le cas, je vous incite à faire la découverte dès demain, comme le lieu est composé de salles enchevêtrées les unes sous les autres et sur lesquelles on ne peut pas faire de grandes modifications, le lieu impose la démarche. Et progressivement, le projet du Camino prend corps. Oui, vous disais-je, pourquoi me suis-je retrouvé embarqué dans cette affaire-là ? Or, sœur Marie-Pia pourrait en témoigner, c'est à cause des petits déjeuners à l'évêché. Le directeur diocésain est invité, parfois la veille, par son évêque, à venir le rencontrer pour régler un dossier, j'allais dire toutes affaires cessantes ou presque. Et quand le dit directeur diocésain, nous sommes en 2005, dit « Problème, Monseigneur, c'est que demain matin, je pars à Clermont de bonne heure. » »« Pas de problème, Jean-Paul, venez prendre le petit déjeuner avant la messe de 7 heures. » Ainsi est-il fait, une fois, deux fois, je ne les compte pas, et je tiens à dire pourquoi je ne les compte pas. Non pas parce que je n'ai pas assez de doigts sur une main, sur deux mains, je pourrais multiplier, parce que j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'était des moments d'échange extrêmement profonds. Bien sûr, il y avait un sujet particulier sur un établissement scolaire ou une difficulté avec une famille ou une difficulté avec un enseignant, enfin, etc. Le quotidien. Il nous prenait ce quotidien quelques minutes importantes avec une ligne directrice qu'il fallait mettre à exécution, c'est le boulot. Il était fait. Et puis on parlait ensuite d'autres choses. Par exemple, cette idée que l'on pourrait développer un peu plus une dimension spirituelle, une dimension chrétienne sur le chemin. Parce que le chemin de Saint-Jacques, on parle de pèlerins, mais le sont-ils, ne le sont... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Jean-Paul, qu'en pensez-vous ? En général, j'ai pas le temps de penser qu'il a déjà la réponse. Vous savez bien, Il a déjà avancé sur le chemin. Vous l'avez dit, Père, tout à l'heure. Il a toujours une longueur d'avance. Et je pense que ça explique pourquoi il était évêque et moi, en admiration devant cette intelligence si vive, qui voyait les choses avant même qu'on les ait posées et qui trouvait la solution avant que j'aie compris le problème. Ça vous donne une idée de la différence de QI entre les deux. Mais c'est comme ça. Il a fait avec ce qu'il a trouvé comme directeur diocésain. Et là, le projet démarre. On y voit arriver des gens très engagés. Philippe Pubellier, Dominique de Causan, qui est là aussi. Gilles Chaussinant, qui comprennent le projet, qui voient sa mise en œuvre et qui travaillent de leurs mains à ce que cette réalisation du Camino, ce lieu scénographique d'accueil et d'interprétation, prenne corps dans les meilleures conditions possibles et au budget le moins dispendieux possible. Il vient un moment où non possumus, disent les latinistes. On ne peut pas faire plus. Et son trait de génie, un de plus, je crois que tout le monde évoquera à sa manière les traits de génie. Son trait de génie, c'est de donner du souffle à son projet. Rappelez-vous, situé près du sanctuaire de Notre-Dame du Puy, ce lieu aura pour vocation d'accueillir tous ceux qui aspirent à parcourir d'un pas alerte le chemin conduisant à l'épanouissement du cœur. Voilà le projet. Le cœur de la réussite tient dans la mobilisation des bénévoles. J'en ai cité tout à l'heure dans la réalisation, mais les bénévoles, c'est le cœur même de la démarche du Camino. Ils sont là nombreux dans cette salle aujourd'hui, ceux qui, au quotidien, travaillent au Camino pour accueillir, servir, renseigner, faire visiter, parler, ouvrir leur cœur à ceux qui viennent. Ces bénévoles s'articulent autour d'une poignée de résistants depuis 12 ans. Ils se succèdent avec toujours une même idée. Accueillir, c'est-à-dire ouvrir les bras. L'idée du lieu était bien celle-là, l'idée première. Accueillir ceux qui passent et qui s'intéressent au chemin et leur permettre, à travers ce qu'on ne montre pas, de comprendre ce qu'ils pourraient découvrir. C'est bien plus subtil que ça n'en a l'air. Parce qu'on pourrait accumuler les démonstrations, les objets, les visios, les vidéos, etc., avec les moyens techniques modernes. Accumuler n'est pas prouvé. Le vieux prof se réveille. Accumuler n'est pas prouvé. Il le savait bien mieux que nous tous. Il fallait simplement donner envie, inciter à faire quelque part cheminer. Ce mot de chemin est tellement large. Faire cheminer chacun. Et cette mobilisation qui dure depuis 12 ans, depuis 15 ans même, depuis 20 ans même, parce que si l'idée a germé dans les années 2005, elle a prospéré au fil des années, mais ça fait bien 15 ans qu'elle est maintenant ancrée dans nos esprits et dans la réalité. Je voudrais donner un grand coup de chapeau à tous ces bénévoles qui continuent à faire vivre cet espace dans l'esprit que Mgr Brincard a voulu. Un esprit d'accueil, un esprit fraternel, qui prend les gens tels qu'ils sont et non pas tels qu'on aimerait qu'ils soient. Ils ne sont pas tous pèlerins. Ils sont venus. Accueillons-les comme ils sont. Bravo à toute l'équipe, à toute cette équipe de bénévoles qui fait vivre ce lieu dans l'esprit de son fondateur. Son âme plane sur les lieux et tout particulièrement dans le jardin, le fameux jardin café qui porte son nom. Mais on ne peut pas parler Camino au Puy sans évoquer Mgr Henri Brincard. Parce que dans le même temps où il cogite le lieu, où il fait travailler des équipes pour arriver progressivement à la réalisation, eh bien, dans le même temps, il accueille lui-même les pèlerins, les partants, à la messe de 7 heures le matin. Oh, pas tous les jours, puisque, comme au temps de Champagne, il est parfois ailleurs. Il est attendu en tellement d'endroits que lorsqu'on l'a, on a le sentiment de jouir d'un privilège. Et c'est quand même bien vu, ça, finalement. Il accueille ses pèlerins à la messe de 7 heures avec quelques-unes de ses phrases fortes. Vous avez évoqué son sens de la formule. Moi, je pense toujours à deux qu'il utilisait très souvent. Sur ce chemin, on part marcheur, on revient pèlerin. Qui d'entre vous ne l'a pas entendu ? Deuxième phrase, deuxième formule. Le chemin, faire le chemin, c'est apprendre à alléger son sac et à porter celui des autres. Au sens propre, mais surtout au sens figuré. Il y mettait beaucoup, beaucoup de conviction. Alléger son sac et apprendre à porter celui des autres. Beau programme pour de futurs marcheurs. De temps en temps, certaines personnes disaient « Oui, mais nous, le chemin, on va pas le prendre, on va pas pouvoir partir parce que on a autre chose à faire. » Et là, arrivait une autre de ces formules fétiches que vous n'avez pas oubliées, en tout cas pour moi, je ne l'ai pas oubliée. Oui, on a souvent autre chose à faire, mais est-on sûr d'avoir mieux à faire ? Ça y est, elle vous revient, cette formule-là. Vous y avez eu droit quelques fois, et moi quelques dizaines. Parce que, évidemment, en homme pressé, oui, monseigneur, c'est... Je ne disais pas que j'avais autre chose à faire, mais ça se voyait, ça se sentait. Et j'avais droit, Jean-Paul, on a toujours autre chose à faire, mais est-on sûr d'avoir mieux à faire ? Et c'est avec ces formules-là qu'il faisait le lien entre le lieu qu'il avait voulu et le chemin qui avait motivé le lieu. Finalement, Camino, c'est l'appellation du lieu a donné lieu à un grand brainstorming, enfin une friture de ménage, où chacun a exprimé l'idée du titre qu'il faudrait trouver, le musée de... Emmanuel Gobiliard, et pourquoi pas le Camino ? Oui, mais le Camino, monseigneur, ça désigne le chemin. Non, le Camino, c'est fait, ne cherchez plus. Et nous avons reçu injonction de ne plus chercher, n'est-ce pas, Gilles ? Toi comme moi, nous avons fait quelques réserves, pas plus, hein, pas d'objection, fichtre non, quelques réserves polies qui ont été couronnées du succès que vous imaginez, puisque le lieu s'appelle le Camino. Et finalement, faire ce lien entre le lieu où l'on vient pour voir, pour essayer de comprendre, et le chemin qu'on parcourt ensuite, je pense que ça a été sa véritable étincelle. C'était street génie, lier les deux avec un même mot. Le chemin, finalement, chemin de terre, chemin de foi, vous connaissez le texte de la chanson qui est dédiée au chemin et qui rappelle que le chemin de Compostelle est à la fois terrain, chemin de terre, chemin de foi. Alors, finalement, je vais revenir un peu au témoignage personnel. Parce que le chemin, il nous en a donné envie. Il nous en a tellement parlé. Nous y avons tellement phosphoré, travaillé, qu'un jour, mon épouse et moi avons eu l'idée d'aller sur le chemin. Le chemin. Vous faites, c'est quoi le chemin ? Alors, pour aider à notre réflexion, ou plus exactement pour la court-circuiter, je vais vous citer une phrase de Antonio Machado, poète espagnol, qui dit ceci. Caminante, no hay camino. El camino se hace al andar.
toi qui chemines, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Ah, et nous voulions faire le chemin, n'est-ce pas Michel ? Mon épouse est au fond de la salle, je la vois très discrètement. Mais je lui dois beaucoup, parce que j'avais l'idée, elle l'a poussée à la réalisation. Elle a attendu l'année de mon départ en retraite, un peu de liberté, et nous voilà partis sur le chemin. Chemin que chacun fait à sa façon, à son rythme. On pourrait dire à ses pieds, parce qu'il faut qu'il vous porte, mais surtout à sa tête. Nous avons coutume de dire à ceux qui viennent parfois, avant de partir sur le chemin, rencontrer les amis de Saint-Jacques, nous avons coutume de leur dire que le chemin se fait avec la tête. Parce qu'on ne marche pas X jours, on marche X fois un jour. En ce qui nous concerne, nous sommes partis un 6 août, nous avons marché 65 jours, avec une idée en tête, aller célébrer à Saint-Jacques-de-Compostelle nos 40 ans de mariage. Une manière de dire « merci mon Dieu, merci la vie ». Et sur ce chemin, eh bien, effectivement, nous avons découvert... Alors, j'ai gardé quelques éléments. Je ne vais pas vous raconter le chemin. Tant de gens l'ont fait avec infiniment plus de talent. Je vais simplement essayer de faire le lien entre le lieu, voulu par le père Brincard, et le chemin tel qu'on peut le découvrir, le pratiquer, quand on se met en mouvement. Pour nous, nous avons fait 65 jours, ou plus exactement, 65 fois un jour, parce que, comme dans la Genèse, 65 fois il y eut un matin, chaque fois il y eut un soir. Et Dieu vit sans doute que cela était bon, et nous, que c'était dur. Et nous avons été bercés par ce chant des pèlerins. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Et le deuxième couplet, chemin de terre et chemin de foi. Voie millénaire de l'Europe. Monseigneur Brincard avait trouvé là le ressort même de ce qu'il faisait. Comment faire vivre aux gens cette dimension à la fois de chemin de terre, de prairie, chemin de foi, y compris pour des non-croyants. Sa manière de répéter tous les matins, vous partez marcheur, vous reviendrez pèlerin. C'était une manière de dire, vous ne savez pas ce qui vous attend, mais laissez-vous rencontrer. Vous ne rencontrerez pas Dieu, c'est lui qui viendra vous rencontrer. Ayez le cœur ouvert, il viendra vers vous. Chemin de foi, chemin de rencontre aussi. Chemin de rencontre, par exemple, avec les autres pèlerins. Chemin de rencontre, alors les pèlerins de et marcheurs de toutes nationalités, de tous âges, de tous horizons, venus là pour des motivations tellement diverses, il suffit de marcher avec les gens pendant quelques jours pour découvrir que on se ressemble sans se ressembler. La même idée nous porte, mais on ne sait pas laquelle. La même raison nous fait avancer, mais on ne sait pas pourquoi. Et justement, Monseigneur Brincard souhaitait qu'à travers le lieu Camino, dans les temps de rencontre, chacun puisse être reçu et accueilli avec ce qu'il porte au fond de lui-même. Pas nécessairement en le déballant publiquement devant tout le monde, mais en étant reçu avec beaucoup de respect, beaucoup de sensibilité, pour être accueilli tel qu'on est. Rencontre avec les hébergeurs du soir. J'ai mis quelques traits importants de ce qui marque chemin de rencontre. Vous vous arrêtez à des endroits très différents, en ce qui nous concerne 65 fois, et vous rencontrez des gens tellement différents, entre des hébergeurs de nativos, des communautés religieuses, d'anciens marcheurs, d'anciens pèlerins qui, ayant fait le parcours 3, 4, 5, 8 fois, ont décidé de poser leurs valises, leurs sacs, et d'accueillir les autres, puis qu'un beau matin reprennent le sac et partent, en laissant le gîte à quelqu'un d'autre qui s'est arrêté, parce que, ouais, dans le fond, pourquoi pas. C'est cette variété des rencontres qui fait aussi la richesse du chemin. Bien sûr, le chemin en lui-même. La végétation y est comme ailleurs. Les pierres y sont aussi dures qu'ailleurs. Quand on chute, on en sait quelque chose. C'est la rencontre qui fait le chemin. À titre personnel, puisque je vous ai dit que c'était un témoignage, je dirais que ma première chance de rencontre sur ces 65 jours, c'était la rencontre avec mon épouse. Après 40 ans de mariage, vous me direz, chapeau les gars. Hein. C'était l'occasion de vivre ensemble. Et là, je m'adresse au couple. 24 heures sur 24, ensemble, 65 jours de suite. Ça n'arrive jamais dans une vie. En tout cas, ça n'était pas arrivé dans la nôtre. D'où l'occasion de relire des épisodes anciens, de se rappeler des souvenirs, de partager des moments. 65 jours, 24 heures sur 24. Rencontre avec soi-même, qui est finalement le pèlerin qu'on connaît le moins. La vie de tous les jours nous bouscule, nous l'aidons bien d'ailleurs, hein, pour peu qu'on ait un tempérament un petit peu actif. Je me sens un peu visé dans ce cas-là. On aligne, on avance. Mais qui avance? Qui suis-je? Est-ce que j'ai l'occasion de me poser la question? En marchant, quand le chemin est presque plat, presque facile, et la partie espagnole s'y prête bien pour ça, certains la jugent monotone. Elle est différente, simplement. Mais elle laisse du temps. On se rencontre avec soi-même. Et puis, quand on est parti animé de l'envie de dire merci à celui qui vous a donné ce temps-là, c'est aussi un temps de rencontre avec Dieu. Finalement, être pèlerin, c'est une forme, rappelez-vous de la racine, peregrinus, l'étranger. L'étranger. C'est une forme de fragilité, le chemin. On ne sait pas où on couchera exactement, dans quelles conditions, ce sera bien, ce ne sera pas bien. C'est une forme de fragilité qu'il faut accepter. C'est un chemin de vie. Finalement, on parcourt le chemin comme on parcourt sa vie. Pour ce qui nous concerne, nous avons eu 7 jours de pluie. C'est de pluie intense, bien sympathique. 7 jours de pluie sur, 70 jours de chemin. Ça fait 10%. Dans quelle vie, où on vous annoncerait seulement 10% de mauvais temps, vous ne signeriez pas encore un bail de 3 siècles? En tout cas, moi j'étais prêt à signer, mais ils n'ont pas trouvé le notaire pour enregistrer l'acte. Ça doit être la durée qui doit dépasser ses compétences. Mais c'est un chemin de vie, avec ses moments faciles, ses moments difficiles, ceux qui font envie, ceux qui font moins envie. En se levant le matin, on ne sait pas ce qui nous attend. C'est un rapport différent au temps et à l'espace. Un rapport différent à l'espace, par exemple. Vous arrivez près du panneau d'une ville et vous voyez marqué le nom de la ville. En voiture, 2 minutes, 2 minutes, 1 minute 30 après, vous êtes au cœur de la ville. À pied, 1h30. Pourtant, il n'y a 4 kilomètres dans les deux cas. Mais parce que vous le faites avec vos pieds, le rapport change. C'est aussi pour cela que la descente dans les locaux du Camino, quand on la fait à pied, quand on fait la remontée, change le rapport. On pourrait descendre avec l'ascenseur. Zip ! Notre vie, elle fait zip en permanence. Là, on a l'occasion, on la prend en tout cas, on l'accepte, de voir les choses sous un autre angle. Et en particulier, d'accueillir l'inattendu. Accueillir l'inattendu, c'est à la fois au sens propre et au sens figuré. On ne sait pas où on logera, on ne sait pas qui on trouvera sur le chemin, mais on ne sait pas non plus quelle grâce et sous quelle forme vont-elles nous arriver. Il faut accepter, comme Mgr Brincard l'avait fait en lançant le projet, il avait accepté l'inattendu de ce projet. Je vous rappelle qu'au départ, on ne savait ni la forme, ni le lieu, on ne connaissait que le pourquoi. D'ailleurs, c'était une manière aussi de nous interroger qu'il aimait bien. Il nous disait souvent, quand on parlait de l'enseignement catholique, par exemple, puisque vous l'avez évoqué, Monseigneur, mais Jean-Paul, dans vos établissements, qui étaient aussi les siens, dans nos établissements, on se préoccupe trop du comment, pas assez du pourquoi. Et je me dis que finalement, cette question qu'il posait sur nos établissements, nous pourrions nous la poser tous les jours sur notre propre vie. On s'intéresse à notre comment on va faire. Alors que la question qu'on devrait davantage creuser, c'est pourquoi le ferait-on ou pourquoi ne le ferait-on pas? Donc cette dimension de l'inattendu, vous voyez qu'elle relie à la fois du verbe relire et relier, vous pouvez prendre les deux, elle relie l'histoire du lieu et du chemin. Camino, c'est un chemin de vie pour chacun de ce qu'il fait, ce qu'ils font. C'est aussi un lieu de rencontre. C'est un espace d'échange. Et alors pour ça, voyez-vous, en conclusion de mon propos, je me suis dit, finalement, comment conclure le témoignage autrement qu'en disant du fond du cœur, merci Monseigneur Brincard. Merci pour votre intuition à développer la dimension spirituelle et authentiquement chrétienne du chemin. Merci pour votre persévérance à créer ce lieu dénommé aujourd'hui le Camino, afin d'accueillir les femmes et les hommes de notre temps à la recherche d'une espérance, d'un élargissement de leurs horizons quotidiens. Merci de nous avoir donné, à Michel, mon épouse, et à moi, l'envie de faire ce chemin. D'ailleurs, le jour où nous sommes partis, nous avons passé un long moment à nous recueillir sur sa tombe. Moment très émouvant. Nos enfants qui étaient là peuvent en témoigner. J'étais particulièrement bouleversé à ce que je relisais dans ma tête toutes les étapes qui nous avaient conduits. Nous sommes partis en 2015, un an après. Nous sommes partis un peu, beaucoup, à cause de lui. Merci, Monseigneur, d'avoir éclairé l'affirmation de Machado. Vous savez, Caminante, il n'y a pas de chemin. Vous l'avez éclairé en nous rappelant à temps et à contre-temps la parole du Christ. Je suis la voie, la vérité et la vie. Nul ne va au Père s'il ne passe par moi. C'était sa pensée profonde. Mais il avait pris le temps, il avait eu l'intelligence de la distiller par toute petite dose pour que chacun puisse prendre ce qu'il avait envie d'en prendre. Merci, Monseigneur, d'avoir été ce que vous avez été dans notre diocèse pour le chemin, pour l'enseignement catholique et pour tant d'autres choses. Merci de continuer à être ce que vous êtes dans le cœur de celles et ceux qui sont rassemblés ici et de bien d'autres. Ce colloque est l'occasion, et merci à Mgr Baumgarten de l'avoir organisé, c'est l'occasion de dire collectivement un grand merci à celui qui nous entraîne avec lui sur le grand Camino. Merci.